Voilà, bon Bernard, nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Pour la petite histoire, vous êtes le premier membre du conseil scientifique à avoir dit oui. Vous faites partie de cette auguste assemblée. Nous nous sommes rencontrés lors de l'organisation d'un événement justement qui reliait le monde universitaire et le monde de l'entreprise.
Oui.
Voilà, qui était autour des questions de reconnaissance. Et de gestion des ressources humaines et de reconnaissance en entreprise. Vous étiez d'ailleurs intervenu ainsi que Gabriel Simon pour l'occasion. Voilà, donc vous avez un parcours très atypique. Vous êtes à la fois philosophe, docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches, et puis vous avez passé toute votre vie non pas sur les bancs universitaires, mais justement à aborder les questions sociales et humaines, politiques, économiques. Vous êtes en train de publier un ouvrage donc, sur le bonheur. Et c'est en lien avec cet ouvrage que vous intervenez aujourd'hui. Je vous laisserai le soin de recadrer le propos, la teneur de votre propos, bien sûr. Voilà. Vous êtes aussi donc membre donc du Conseil économique, social et environnemental, et vous enseignez à Paris, donc à l'école à l'ISC, donc à Paris, que parmi vos grandes responsabilités, vous êtes aussi vice-président du Semaine sociale de France. Voilà, je vous laisse la parole, je vous remercie beaucoup.
Merci. Si je lis le titre dans votre carnet de l'auditeur, je vous donne le timing. Vie religieuse, ça commence comme ça le titre. Vie religieuse, bon allez, 1h30. Une recherche spirituelle, 1h30 de plus, 3h. Sagesse, allez, 1 heure de plus, on est vers 4h. Philosophie, 5h. Vie religieuse, à nouveau, il y a deux fois vie religieuse. S'il faut redoubler, ça fait 6h. La quête du bonheur en Occident, on est là jusqu'à demain matin. Donc, j'ai résumé tout ça en éléments de langage, comme on dit aujourd'hui. Il y a trois mots clés, bonheur, christianisme et philosophie occidentale. Christianisme et philosophie occidentale. Et ça pourrait donner comme titre cohérent « Le bonheur, étude comparée du christianisme et des grandes philosophies occidentales ». Je vais vous donner mon plan et quelques repères sur deux feuilles chacun. Voilà, merci. Il devrait y en avoir assez. Sinon, il va falloir les reprendre à Cyril et à Xavier, oui. Qui les ont déjà. Alors, le bonheur, pourquoi on en parle là? Parce que c'est finalement l'objectif de toute vie humaine, quelle que soit cette vie humaine. Mais en même temps, c'est sans doute l'un des objets, peut-être l'objet, le plus confus de la connaissance. C'est curieux ce paradoxe. C'est ce vers quoi on veut tendre sans arrêt, alors sous des formes différentes, hein, bien sûr, mais chacun veut tendre vers le bonheur, et on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, il serait le plein accord avec le fait d'exister. Ça, on peut tomber d'accord à peu près là-dessus. C'est-à-dire que, en état de bonheur, si tant est que ça existe, je ne suis pas en divorce avec moi-même, mais au contraire, en communion avec ma propre existence. Mais les perspectives du bonheur sont dans un véritable maquis. Ça part dans tous les sens. Les uns disent que c'est la tranquillité, le bonheur. Et d'autres disent que c'est l'intensité de vivre. Il y en a qui disent que c'est la vertu. D'autres qui disent que c'est la transgression de l'interdit. Il y en a qui disent que c'est s'appuyer sur des repères sûrs. Et d'autres qui disent qu'au contraire, c'est la fantaisie. Donc, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le bonheur donne du sens. Quel qu'il soit, le bonheur semble pourtant une certaine préoccupation de soi. Je ne cherche pas le bonheur pour mon malheur. Je cherche le bonheur pour lui-même. Donc il y a une certaine préoccupation de soi, une certaine préoccupation de son avenir. Et là, nouveau paradoxe, la foi chrétienne inverse. Elle inverse, semble-t-il, ce souci. La foi chrétienne oriente le bonheur vers l'ouverture à l'autre, et non pas le souci de soi. Donc ça fait déjà pas mal de paradoxes. Alors évidemment, je ne pourrais pas tout dire dans l'espace de temps qui m'est imparti, et c'est normal que je n'ai pas les 7 heures dont je parlais tout à l'heure, vous vous en sortez bien, je vais donc être obligé d'être concis. Je voudrais donner 4 citations, et c'est tout, en guise du bonheur chrétien. La première, c'est, je crois que je l'ai mis d'ailleurs, c'est une de celles que j'ai retenues dans le papier distribué, le Seigneur dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est saint Paul qui dit ça dans les Actes des Apôtres. Là, on est dans une sagesse profane, sauf que c'est vrai, ça commence par le Seigneur. Hein. Bon, mais si j'enlève le Seigneur dit lui-même, si je garde la phrase qui suit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, on est dans une sagesse profane et dans un paradoxe, troisième, qui définit le bonheur. Le paradoxe qui définit le bonheur, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire sans y réfléchir, le bonheur, c'est pas d'accaparer et de recevoir, il y a bonheur dans l'acte même de donner. La deuxième citation, c'est « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. On est de nouveau dans une sagesse profane. Quelqu'un de d'athée, de non-croyant, peut très bien dire « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». D'ailleurs, Nietzsche a une phrase très semblable à celle-là. Mais on en sait un peu plus que dans la première, puisque dans la première, il s'agissait que de comprendre que le bonheur était un don, se donner. Et là, il y a carrément le mot « amour ». Et l'amour associé à l'idée de don de sa vie, et de don de sa vie à l'altérité, don de sa vie à l'altérité des autres. Il y a donc une étroite parenté entre bonheur, don de soi, mais aussi la mort. L'amour et la mort ont une telle parenté que c'est le thème principal, et de loin, de toute la littérature, de toute la poésie, de tout le cinéma et de toute la chanson. Et là, on le voit, il est saillant. Il n'est pas de plus grand amour, donc de plus grand bonheur, compte tenu de la première citation, que de donner sa vie, don de soi, et don de soi jusqu'à la mort, pour ceux qu'on aime. Troisième citation, « Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. » Là, c'est la première lettre de saint Jean. Alors là, cette fois-ci, on n'est plus dans le profane. Là, on est dans la foi, puisque là, on nous dit « L'amour est de Dieu, il vient de Dieu. » Et Dieu lui-même a pour définition l'amour. Là, on entre dans la spiritualité, on entre dans la transcendance, et on va un peu plus loin que dans les deux premières citations. On sait maintenant que le bonheur est amour, qu'il est don de soi, qu'il est parent avec la mort, et qu'il est Dieu. Et en quatrième et dernière citation, mais pour l'instant sans explication, hein, je ne fais que donner des citations, « L'amour est plus fort que la mort », c'est la citation la plus ancienne, là, puisqu'elle est du Cantique des Cantiques, et nouvelle parenté étroite de l'amour et de la mort, mais cette fois-ci beaucoup plus spirituelle, puisqu'il s'agit de ce paradoxe le plus fort, qui consiste à affirmer que l'amour aurait vaincu la mort. Et on ne voit pas bien ce que ça peut vouloir dire, d'ailleurs, hein, dans un sens profane. Comment l'amour peut-il être victorieux de la mort? On est dans une dimension spirituelle, dans une expérience intérieure. Alors, ma première partie, c'est de vous parler de la prédominance judéo-chrétienne apparente de la philosophie occidentale et du bonheur, mais pour vous dire, dans une deuxième partie, que, en fait, il y a une scission profonde entre le bonheur chrétien et cette philosophie occidentale, et on verra qu'il y a d'autres formes de bonheur, et on terminera sur le dialogue humain-divin qui semble essentiel. Alors d'abord, la prédominance judéo-chrétienne apparente dans la philosophie occidentale du bonheur. Alors, Occident, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais très rapidement, c'est l'Europe. Hein. C'est l'Europe, puis ses extensions historiques, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, hein, voilà. C'est cette culture. Je ne la définis pas, je la situe. Le premier paragraphe, c'est « Après Jésus-Christ ». Vous me direz, normalement, il ne devrait y en avoir qu'un. Si c'est l'influence du christianisme sur la philosophie, il faut d'abord qu'il y ait eu le christianisme. Mais on fera quand même un grand B sur ce qui précède. Alors, bien sûr, il y a d'abord les philosophes du Moyen-Âge. Pourquoi je dis bien sûr ? Parce qu'ils sont historiquement proches de la révélation évangélique. Il y a les pères de l'Église, lors du Bas-Empire, avec, grâce à eux, la naissance d'une philosophie et d'une théologie chrétienne. On n'est plus simplement dans l'oralité de la transmission des Écritures ou dans l'écriture plus ou moins tardive des Évangiles, mais on est là vraiment dans la naissance d'une philosophie et d'une théologie chrétienne, très diverse d'ailleurs, hein, d'un père de l'Église à l'autre. Et il y en a, les pères de l'Église, personne ne l'a jamais chiffré, parce que selon les auteurs, c'est pas le même nom, mais... on se situe autour d'une trentaine, hein, de pères de l'Église, mais il y en a qui vont jusqu'à 100, hein, pères de l'Église. Alors, entre autres, et ce, moi j'ai le temps d'insister que sur cet aspect, entre autres, ils initient la spiritualité chrétienne. Et je voudrais la définir de façon concise et forcément incomplète, mais à partir des pères de l'Église. La spiritualité chrétienne, c'est d'abord une vie intérieure. Mais attention, c'est pas une introspection, c'est pas une complaisance de soi-même avec soi-même. C'est une vie intérieure qui contemple un mystère qui la dépasse. Et j'en resterai à cette définition trop courte pour quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de pages là-dessus, quoi. Hein. J'ai pas la prétention en quelques secondes de pouvoir tout dire. Mais il est bon de savoir dès le départ ici que la spiritualité, c'est cette vie intérieure qui contemple un mystère qui la dépasse. À peu près tous les pères de l'Église sont bien d'accord avec ça. Et ce Moyen-Âge qui suit le Bas-Empire est une époque riche. C'est l'époque de la synthèse des diverses cultures qui se rencontrent au Moyen-Âge. On a souvent dit que le Moyen-Âge, c'était obscurantisme, une période extrêmement féconde. De télescopage, puis de mariage de diverses cultures du bonheur. Je ne peux pas parler de tous, il faudrait parler de l'importance du judaïsme à l'est et au sud de l'Europe, il faudrait parler de l'influence d'Avicenne, d'Averroès, donc de l'influence arabe à cette époque-là. S'il y a des questions, on essaiera d'en parler. Je me contente de trois ou quatre repères. D'abord, saint Augustin, né en 354 et mort en 430, saint Augustin qui fait la synthèse de Platon et du christianisme. Et l'idée commune, c'est que le bonheur, c'est la contemplation de la beauté absolue. Et il emploie, même saint Augustin, on le comprend de Platon, hein, on le comprend bien d'ailleurs, saint Augustin, quand on le lit, mais c'est un peu plus inattendu. Saint Augustin reprend le vocabulaire platonicien, le bonheur suprême, c'est la contemplation de la beauté absolue. Et puis on a, 1190-1153, saint Bernard et ses disciples cisterciens. L'Europe des cathédrales, on en parle beaucoup politiquement, mais je ne sais pas si l'Europe des cathédrales a une influence culturelle très forte. Ce qui a une influence culturelle forte, c'est l'Europe des monastères. Et l'Europe des monastères, c'est le monastère santé, le monastère université, le monastère agronomie, le monastère recherche, le monastère prière. Et Saint Bernard et les disciples cisterciens, c'est cette Europe des monastères qui, par exemple, et ça c'est capital, termine, c'est eux les cisterciens, pas Saint Bernard, mais les disciples de Saint Bernard, qui terminent vers 1220 la quête du Saint Graal. Et la quête du Saint Graal, c'est la synthèse entre la culture celtique, disons la culture barbare, hein, et la culture chrétienne. C'est le passage des invasions de nomades qui se sédentarisent pour donner la féodalité et la chevalerie, et qui se christianisent, mais à partir de leurs propres valeurs. Et le guerrier, la valeur honorifique, glorieuse et divine du guerrier celtique, nomade, reste guerrière. Le chevalier reste un guerrier. Reste guerrière, mais il ne le fait plus pour sa gloire, mais pour le don de soi à une cause. Il y a une cause noble qui concerne autrui. Et en 1225-1274, c'est la vie de saint Thomas d'Aquin. Lui, il fait la synthèse entre Aristote et le christianisme. Et le bonheur, par exemple, c'est le bien commun. Qu'on retrouve aujourd'hui, bien entendu, dans l'enseignement social chrétien. Et le bien commun, c'est un concept à la fois aristotélicien et thomiste, puisque saint Thomas, justement, fait cette synthèse entre christianisme et Aristote. Descartes aussi, au XVIIe siècle, est influencé par le christianisme. Et je prends chaque fois que un ou deux exemples, hein, parce que je ne peux pas en prendre 36. Lui, il est né en 1596, mort en 1650. Pour lui, le bonheur, c'est se rendre, c'est son expression, hein, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est cette phrase, avec toute l'explication qui va avec, parce qu'alors lui, il explique, hein, et se trouve dans la sixième partie du discours de la méthode, écrit en 1637. Se rendre comme maître et possesseur de la nature, pourquoi c'est judéo-chrétien? Parce que c'est l'écho de, en quelque sorte, du mot d'ordre biblique de la Genèse, prospérez, multipliez-vous et dominez la création. Et il ne faut pas croire que c'est simplement anecdotique, ce mot d'ordre. Il est l'originalité judéo-chrétienne révolutionnaire, mais révolutionnaire, d'un temps linéaire qui est propice à une culture du progrès et du bonheur. Le bonheur, c'est demain. Ailleurs, autrement, demain, le bonheur est devant. Et ça s'oppose au temps cyclique de toutes les civilisations de la planète, y compris la nôtre avant le judéo-christianisme. Le temps cyclique, c'est le temps naturel. Jour, nuit, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. Et on tourne en rond. C'est pour ça qu'il est cyclique. Et dans une telle culture, il ne peut pas y avoir de progrès. Il ne peut pas y avoir du moins de culture du progrès. Il peut y avoir des progrès, mais pas de culture du progrès. Parce que vous avez physicien grec qui découvre le système de la poulie, qui en font la démonstration dans le port du Pirée, à Athènes antique. Tout le monde applaudit, on se croirait au carnaval, parce qu'avec son petit doigt, il fait avancer des gros bateaux à l'intérieur du port. Mais personne ne songe, même pas le physicien, à industrialiser le processus. C'est une astuce, quoi. C'est marrant. Voilà. Et parce qu'on n'est pas dans une culture du temps linéaire. Ce qui va nous faire attendre longtemps le résultat du progrès et les débuts du progrès, c'est que l'historicité inventée par la Bible, l'historicité de la marche vers la terre promise, et de l'intervention de Dieu dans l'histoire, cette historicité n'a pas les moyens de transformation du monde. Quels vont être les moyens pour Descartes? Eh bien, c'est la raison gréco-romaine. Les Grecs apportent la rationalité mathématique, physique, technique, mais n'a pas l'idée de progrès. Le judéo-christianisme apporte l'historicité, l'idée de progrès, et la synthèse des deux, c'est Descartes, ça donne le monde moderne, c'est le premier occidental. C'est le premier occidental. Il y a aussi chez Descartes la notion de libre arbitre, qui provient aussi du christianisme. Le christianisme étant l'une des premières cultures qui s'oppose au fatum romain et à l'ananké grec, c'est-à-dire à la fatalité, le bonheur d'être sujet, le bonheur d'être une personne. Et Descartes le reprend dans cette notion de libre arbitre et surtout, ce qu'a retenu l'histoire, le « je pense ». Le « je pense » avec insistance sur le « je », sur le sujet. Et souvent, c'est traité en classe de philosophie sous l'angle de très métaphysique, du « je pense, donc je suis ». En fait, c'est aussi très politique. C'est « je n'obéis plus à Aristote, je n'obéis plus à saint Thomas d'Aquin, je n'obéis plus à personne, je pense ce que je veux selon ma raison et je vous emmerde ». C'est clairement ça, Descartes. Enfin, ben, il était plus poli que moi. C'est pas sûr qu'il soit plus poli que moi. Je voulais entrer dans les détails, je crois pas. D'où les deux piliers de la civilisation occidentale, les deux piliers qui définissent la civilisation occidentale, les droits de l'homme d'un côté qui naissent au 18e, mais parce qu'il y a Descartes au 17e, qui met en exergue le « je pense », l'individualité du « je pense », et la société technique, scientifique et technique, que Descartes développe longuement dans le sixième chapitre du discours de la méthode, et qui fera la première révolution industrielle au 19e siècle. Mais alors, en revanche, il y a peu de spiritualité chez Descartes. Et son frère ennemi, Pascal, lui dira de façon sèche, ils se rencontrent une seule fois, Descartes et Pascal, on ne sait pas ce qu'ils se disent, mais dans les pensées, il y a une phrase, elle est très courte, dans les pensées de Pascal, une phrase sur Descartes, « Descartes, deux points, inutile et incertain ». Voilà, c'est clair. Et le grand reproche de Pascal à Descartes, c'est le manque de spiritualité du cartésianisme. Kant au 18e, 1724-1804, est aussi influencé par le christianisme. Et il se méfie, lui, de l'utilisation du mot « bonheur ». Ah, c'est pas son truc, quand même. Parce qu'il insiste, lui, sur la notion de devoir. Mais il conceptualise une valeur chrétienne fondamentale, première, la dignité de chaque personne. C'est bien le christianisme qui inaugure la dignité de la personne humaine. Par exemple, la parabole de la brebis égarée. Je dis le christianisme culturellement, parce que le judaïsme aussi. Mais je dis ça culturellement au XVIIIe siècle. Là. Et encore, on pourrait parler de Spinoza et de l'influence judaïque sur Spinoza. Mais bon, je n'ai pas le temps de tout faire. S'il y a des questions, on verra. Mais la parabole de la brebis égarée est effectivement un des fondements de la dignité de la personne humaine, c'est-à-dire qu'une seule brebis qui s'égare, c'est la mobilisation générale du berger, qui laisse les 99 brebis tranquilles dans un coin, et qui va tout faire pour retrouver la seule brebis égarée. C'est-à-dire qu'il y a autant de dignité dans une personne que dans toutes, parce que c'est la dignité humaine, c'est la dignité de la personne humaine. Et il faut bien comprendre que les Romains à l'époque, aussi civilisés qu'ils puissent être, n'avaient aucune notion de cette dignité-là. Il y en a une autre dignité. Ils avaient la dignité au sens de fierté, au sens de amour propre, au sens où certains jeunes emploient ce mot dignité dans certaines banlieues. C'est la notion fierté, la notion amour-propre. Mais la dignité, au sens chrétien que va reprendre Kant, c'est la valeur absolue de chaque personne, quel qu'il soit, quelles que soient ses qualités, quels que soient ses défauts, quelles que soient ses indignités, quelles que soient ses fautes. Et c'est un paradoxe. Respect de la dignité absolue malgré mes indignités personnelles, malgré mes indignités morales. Einstein n'a ni plus ni moins de dignité qu'un trisomique. Un jeune athlète n'a ni plus ni moins de dignité qu'un vieillard grabataire. Ça, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau dans la civilisation. Et le bonheur, dans ce cas, c'est celui de la réhabilitation de l'homme. L'homme est réhabilité dans sa dignité. L'homme, image de Dieu, le judaïsme, est tout à fait d'accord avec ça. Le christianisme ajoute rédemption, le pardon des indignités, est un pardon concret. Hein. C'est pas Dieu qui claque des doigts si tant est qu'il ait des doigts. Ça passe par la croix, quoi. Hein. Ça passe par la croix. C'est très très concret. La rédemption qui donne ma pleine dignité, sans laquelle il n'y aurait aucune dignité humaine, puisque les indignités morales de chacun d'entre nous sont hélas flagrantes. Eh bien, figurez-vous que Kant, lui, va reprendre ça avec un avantage, peut-être, c'est qu'il va rendre ce concept rigoureux, il va le conceptualiser. Et ça donne l'une des trois formulations de l'impératif catégorique, « Agis de telle sorte que tu considères l'humanité dans ta personne comme dans celle d'autrui », c'est là que c'est important, « toujours comme une fin, jamais comme un moyen ». Et être un moyen, qu'est-ce que c'est ? Être un moyen, c'est être quelque chose dont le but m'est extérieur. Par exemple, un marteau n'a pas sa finalité en soi. Ça ne veut rien dire, marteau. La finalité d'un marteau, c'est par exemple de pouvoir enfoncer un clou. Finalité extérieure. Le marteau est un moyen. Mais l'homme, justement, est une fin en soi, lui. Il est à la fois sujet et but de toute activité humaine. Et cette phrase, telle que je viens de la prononcer, sujet et but de toute activité humaine, est textuellement reprise dans l'encyclique « Mater et Magistra ». Marx, 19e siècle, 1818-1883. Eh bien, lui aussi est influencé par le christianisme. Alors c'est vrai, il se dit athée, et il l'est certainement, on va pas sonder les cœurs. Mais beaucoup, chrétiens ou non, hein, beaucoup voient en lui un dernier prophète du judéo-christianisme. Et pourquoi beaucoup voient dans Marx un des derniers prophètes du judéo-christianisme, ou le dernier, c'est le côté messianique. Le côté messianique de la pensée marxiste. C'est-à-dire l'idée que le bonheur est au bout de l'histoire et qu'il est garanti. Comme s'il y avait un messie. Il est garanti. Il n'est pas garanti sur Dieu, il est athée. Il est garanti sur quoi ? Sur le sens scientifique de l'histoire. Et à coup sûr, pour l'instant, on est dans le malheur. Mais attendez, c'est irréversible, c'est irrévocable. Nous allons tout droit vers la société de plein bonheur. Donc le messianisme historique qui n'est compréhensible que dans la culture judéo-chrétienne. Par exemple, c'est-à-dire le temps linéaire dont je parlais tout à l'heure, quand Marx, première phrase du manifeste du Parti communiste, dit « L'histoire de tous les peuples jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. » C'est peut-être vrai, on va pas le demander maintenant, hein. Mais on est sûr que c'est faux en Inde, par exemple. C'est vrai que dans les cultures judéo-chrétiennes, et encore, c'est peut-être pas sûr, mais c'est sans doute vrai dans les cultures judéo-chrétiennes. Mais en Inde, il y a 7 castes depuis des siècles et des siècles, et il n'y a jamais eu de révolution des intouchables contre les Barajas. Il y a eu des révoltes, il y a eu des meurtres. Mais il n'y a jamais eu de projet politique révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le temps cyclique. La mer est devant moi, la montagne est derrière moi, personne n'y peut rien. Le Maharaja est là, je suis l'intouchable, on n'y peut rien non plus. Temps cyclique. Il faut un temps linéaire pour croire qu'on puisse changer l'ordre des choses. Donc, forte influence du christianisme sur Marx. Nietzsche, 1844-1900. Alors lui aussi est athée, et même alors lui, il fait de la polémique extrêmement virulente contre le christianisme. Il y a quand même quelques passages positifs de Nietzsche sur la personne du Christ. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est quelques lignes. Hein. De même, il y a des phrases qui sont très anti-juives. Je ne sais pas si elles sont antisémites, mais elles sont anti-juives toujours. Mais il y a aussi deux ou trois passages, alors ils sont courts, il ne faut pas les rater, hein, où il y a une admiration de Nietzsche pour le peuple juif. Mais là où l'influence est nette, et puis elle est volontaire en plus, hein, elle est assumée, c'est dans Ainsi parlait Zarathoustra, qui est présenté comme un évangile. C'est un évangile, Ainsi parlait Zarathoustra. Il y a un prophète, Zarathoustra, qui descend de la montagne, où il vient d'être témoin d'un fait inouï, et il va annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Et cette bonne nouvelle, Dieu est mort. Voilà la bonne nouvelle que Zarathoustra va dire, voilà, je suis témoin, j'étais sur la montagne, avec mon aigle et mon serpent, pas avec mon chien et mon chat, hein, avec mon aigle et mon serpent, et je descends de la montagne, et je vous dis, voilà ce que j'ai vu, je suis témoin, Dieu est mort. C'est-à-dire que la bonne nouvelle est évidemment l'inverse, hein, de la bonne nouvelle chrétienne, mais c'est construit comme un évangile. C'est vraiment construit comme de la même façon, avec des paraboles, tout ce qu'il faut. Mais il y a aussi plus profond, hein, c'est quand même celui qui dit « Il n'est pas de plus grand bonheur que de mourir pour une grande cause. » C'est Nietzsche qui dit ça. On n'est pas loin quand même de « Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. » Qui est une phrase de l'évangile de Jean. Donc, influence. Sartre aussi. Alors, lui aussi, il est athée. 1905-1980. Cependant, n'oublions pas que l'un de ses principaux, peut-être même son principal concept, est celui de transcendance. Transcendance qu'il emprunte, et c'est lui-même qui le dit, hein, qu'il emprunte au vocabulaire judéo-chrétien et à la théologie judéo-chrétienne. Il le dit, je l'emprunte. Enfin, c'est tous les phénoménologues qui le disent, hein, pas simplement lui, mais lui particulièrement. Et la transcendance pour lui est une reprise laïcisée de ce mot, le mot transcendance. La transcendance n'est plus celle de Dieu. Dans le judéo-christianisme, la transcendance de Dieu, c'est que Dieu est au-delà de l'homme, au-dessus de l'homme. Mais c'est l'acte de la conscience, la transcendance, c'est pour lui l'acte de la conscience, qui se projette, qui se transcende, qui se projette toujours vers un ailleurs, vers un autre monde, vers un au-delà que le présent. C'est ce qu'il appelle la liberté, la valeur qui, chez Sartre, et sans doute proche du bonheur, mais on n'en est pas sûr, on verra tout à l'heure un peu plus loin. Grand B, avant Jésus-Christ. Alors évidemment, il n'y a pas d'influence du christianisme avant Jésus-Christ, par définition. Mais Platon, 427-347 avant Jésus-Christ, qui est le plus ou moins le porte-parole de Socrate, lui c'est 470-399 avant Jésus-Christ. Et Aristote, disciple de Platon, mais très différent, 384-322, sont souvent, par rétroaction, à rebours, considérés comme les précurseurs du christianisme. Et les deux points clés de cette précession, c'est la tendance au monothéisme, surtout chez Aristote, et la tension spirituelle vers un au-delà, surtout chez Platon. Et ces deux points seront considérés par toute l'histoire de l'Occident comme faisant de Platon et d'Aristote les précurseurs du bonheur chrétien. Grand 2, scission en fait, entre le bonheur chrétien et les bonheurs selon la plupart des grands philosophes. Oui, il y a un divorce total. Et saint Paul l'a cruellement vécu. Il n'y a pas beaucoup de passages franchement rigolos dans le Nouveau Testament, mais il y en a quelques-uns. Et il y a celui-là. Parce que là, il nous fait de l'humour, là, quand même, saint Paul. Hein. Il arrive à Athènes, et c'est écrit, hein, c'est pas moi qui invente, hein, c'est écrit dans les Écritures. Hein. Il arrive dans Athènes, et il voit un temple. Il se demande à qui c'est, parce que en général c'est marqué, hein, à Neptune, à Apollon. Et là, il y a marqué au Dieu inconnu. Ah bon? Et les Grecs, ils étaient très précautionneux. Ils disaient, au cas où on aurait oublié, hein, on va se faire un temple au Dieu inconnu. Et il arrive à l'aréopage, c'est-à-dire l'assemblée des intellectuels grecs, les philosophes grecs, héritiers de Platon et d'Aristote, enfin plus ou moins quand même, parce que ça avait dérapé la philosophie. Hein. Mais il arrive là et il leur dit, moi, ça y est, je vous apporte le Dieu qui est pour le temple que vous avez érigé au Dieu inconnu. Eh bien, c'est Jésus, hein, c'est Dieu, et je vais vous en parler. Et ils sont prêts à écouter, hein. Après tout, s'il y en a un qu'ils ont oublié. Mais quand il leur parle qu'il est né dans une crèche, que il a la stupidité incroyable pour un dieu de se faire flinguer par ses propres créatures, quand on est dieu, c'est un comble quand même, il se fait foutre à la porte, quoi. Hein. Sauf un qu'on appelle Denis l'Areopagite, hein, qui se convertit, mais il le fout à la porte. Donc il y a une véritable rupture. Et aucune des grandes philosophies qu'on a citées là, ou d'autres même hein, qu'on n'a pas citées, ne s'inscrit dans l'essentiel de la philosophie chrétienne du bonheur. Aucune philosophie occidentale, ni orientale d'ailleurs, ne s'inscrit dans l'essentiel de la philosophie chrétienne du bonheur. La scission se creuse quant à la direction vers laquelle s'oriente le bonheur. La plupart des philosophes visent le bonheur principalement, presque toujours, par et dans la quête de l'un et du même. Je vais m'expliquer. L'un, l'unité, c'est la cohérence du tout, la rationalité, le lien, l'harmonie. Et le même, c'est ce qui est immuable, éternel, identique, qui ne bouge pas. C'est le contraire de l'altérité. Eh bien, presque tous les philosophes sont en quête de la cohérence du tout et du repos immuable, c'est-à-dire de la sécurisation. Le but de tous les philosophes occidentaux, ou presque, on verra qu'il y a des exceptions, c'est la sécurisation, avoir des repères, être sûr des vérités, et sentir que l'éternité est à notre portée, hein, l'immuabilité. Or, nous l'avons dit, le bonheur chrétien est ouverture à l'autre, don de soi et non pas repliement sur soi. Par exemple, le bonheur de Platon, c'est d'étancher la soif d'absolu. L'homme se désespère, et je me désespère. Vous vous désespérez, hein, du tout fout le camp. C'est l'idée clé de Platon, ça, et de toute la philosophie grecque, d'ailleurs. Hein. Ils sont obsédés par l'idée du tout fout le camp. Héraclite dit, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ça veut dire que quand je me baigne à midi, j'ai telle et telle molécule d'eau, telle forme de la berge, tel grain de sable sous mes pieds, mais à 14 heures, c'est plus le même sable, c'est plus les mêmes berges, c'est plus la même eau. Et c'est tout comme ça. Je suis jamais en présence de la perfection. Tout est périssable. Tout est en train de croître ou de dépérir. Tout est à peu près ceci, mais pas franchement cela. Tout est un peu comme l'arc-en-ciel. Au moment où je dis, il est là, il n'est plus là. C'est ce que les Grecs appellent le devenir, et pour eux, c'est le non-être. Et Platon dit, il faut qu'on s'en sorte de ça. Il faut trouver la solution. On ne peut pas continuer à vivre dans le tout fout le camp. Et là, il découvre la notion d'idée avec un I majuscule. Pourquoi on met un I majuscule à idée? Parce qu'il n'y a qu'elle qui existe. Les choses n'existent pas. Seule l'idée est parfaite et immuable. Par exemple, l'idée de triangle, elle est parfaite. Les angles d'un triangle, la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. Et ça, c'est sûr, c'est carré, du moins, dans la géométrie d'Euclide. Alors qu'un triangle en bois, il est plus ou moins un triangle. Et puis le bois va pourrir. Pareil pour n'importe quel autre triangle. Donc, il n'y a que l'idée qui existe réellement. Et pour lui, il va y avoir deux mondes. Le monde de l'autre multiple, qu'il appelle le monde sensible. C'est là où tout fout le camp, où tout se dégrade. Et puis, il y a le monde de l'un et du même. C'est celui des idées. Qui s'oppose donc au désordre, le multiple, et qui s'oppose au changement, l'altérité. Le bonheur est bien sûr du côté du monde des idées. Dans le banquet, qui a réellement eu lieu, hein, en 416 avant Jésus-Christ, Platon est très jeune là, hein, mais c'est Socrate qui est dans le banquet, et Platon rapporte ce qui s'est passé. En 416, il y a eu lieu un truc qui pourrait avoir lieu aujourd'hui, mais qui a des difficultés à avoir vraiment lieu, puisque ce banquet va rassembler les plus grands acteurs et les plus grands auteurs du showbiz de l'époque. Il y a Aristophane, il y a d'autres auteurs de tragédies célèbres. Et d'ailleurs, on fête le premier prix de Agathon, qui a obtenu le premier prix de tragédie. Et ils sont là, il y a les plus célèbres personnalités politiques, Alcibiade, il y a les plus célèbres intellectuels, dont Socrate. Enfin, c'est comme si aujourd'hui on rassemblait à Paris des gens comme Obama, Poutine, les grands intellectuels du monde entier, tout ça, on les met ensemble, là, et ils prennent pour thème de distraction qu'est-ce que l'amour ? Et ils boivent comme des fous. Alors, quand on boit beaucoup, il reste. Et qu'on parle de l'amour, je ne vous dis pas ce que ça donne. Et ça donne, effectivement, le banquet, c'est chaud. Hein. C'est très très chaud, le banquet. Et en plus, c'est dans l'homosexualité. On arrive quand même, Socrate arrive quand même, à définir ce que c'est que le bonheur absolu. Et la citation est dans le banquet. Je cherche où c'est que j'ai marqué ça, mais je l'ai marqué sur vos feuilles. Je ne le trouve pas dans mes notes, mais peu importe, vous l'avez sur vos feuilles. L'homme passe de l'amour d'un beau corps, c'est un truc initiatique, hein, comme une initiation. Il passe d'un beau corps pour chercher la beauté. Mais il est déçu. Un beau corps ne contient que relativement la beauté, et puis pas longtemps. Et puis, pour chercher la beauté absolue, il prend tous les beaux corps. Pour essayer de voir s'il va finir par la trouver. Mais sa soif de la beauté absolue n'est toujours pas étanchée. Alors, il désire alors la beauté des belles âmes, pour voir si ça marche. Mais ça marche pas plus. Nouvelle déception. Puis des belles sciences. Voilà, finalement, est lié. Voilà le moment de la vie, mon cher Socrate. Oui, alors, je vais y arriver dans une seconde. Il désire alors la beauté des belles âmes, mais ça ne marche pas parce que c'est toujours relatif, nouvelle déception. Puis des belles sciences, mais les belles sciences ne sont pas parfaites, elles ne sont pas immuables. Et il arrive enfin à la beauté absolue, complètement désincarnée. Hein. Voilà le moment de la vie, mon cher Socrate, à supposer qu'il y en est un qui vaut la peine d'être vécu, lorsqu'on contemple la beauté elle-même, c'est-à-dire, et je l'explique, la beauté absolue, une, toujours identique, désincarnée, dématérialisée. C'est pas la beauté, il le dit, il écrit dans le livre, c'est pas la beauté d'une main, c'est pas la beauté d'un visage, c'est pas une beauté qui croît, c'est pas une beauté qui dépérit, c'est pas une beauté qui est belle sous un angle et laide sous un autre, et tous ces mots que je suis en train de prononcer sont dans le banquet. C'est vraiment la beauté absolue, l'un le même. C'est le but. C'est le bonheur de la philosophie platonicienne. Et Aristote, Aristote conçoit des bonheurs sensibles, des bonheurs politiques. Alors, il n'est pas comme Platon, donc. Hein. Des bonheurs d'amitié, lui. Donc, vraiment, il a une palette très large de la notion de bonheur. Mais il y a, selon lui, un bonheur suprême. Ce bonheur suprême, c'est la béatitude contemplative, ce qu'il appelle le souverain bien, dans l'approche du divin. Alors, de nouveau, on tombe, comme chez Platon, hein, dans l'un le même, l'ordre, c'est-à-dire l'un, éternel, c'est-à-dire le même, l'ordre éternel, et c'est Dieu. Mais alors, attention, n'allez pas croire quand même que c'est un Dieu qui ressemble au Dieu juif ou au Dieu chrétien. Le Dieu d'Aristote est immuable. Il attire comme un aimant, mais il n'agit pas du tout sur le monde. Il n'agit pas du tout sur les hommes. Il s'en fout complètement. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a aucune ouverture à l'altérité. Il n'a aucune ouverture à la diversité. Il est totalement transcendant. Et pourquoi il est comme ça? Ben parce que justement, il est l'un et le même. Il n'y a pas d'ouverture à l'altérité. Donc il ne s'intéresse pas aux hommes du tout. Vous voyez que saint Thomas d'Aquin, il va avoir du mal à faire la synthèse d'Aristote et du christianisme. Alors, si on reprend Descartes, nous retrouvons la quête de l'un même aussi. Sa question, son obsession à Descartes, c'est « Y a-t-il un repère pour ne pas vivre dans l'errance ? Y a-t-il un point fixe et sûr ? Y a-t-il une vérité absolue ?» Et il cherche. Il dit « Ça ne peut pas venir des sens, il me trompe, ça ne peut pas venir de la raison, elle me trompe, ça ne peut pas... » Il ne trouve pas. Et enfin, il en trouve un, le point fixe. Inattendu. Parce que tous les autres avaient cherché le point fixe, l'ancrage, à l'extérieur. Quand un navire est dans la tempête, qui cherche un port, il ne cherche pas un port à l'intérieur du navire. Il cherche un port sur la terre ferme. Et tous les philosophes avaient cherché un port, un point fixe, hors de l'homme. Or, lui, il dit, mais non, vous êtes tous gourés. Le point fixe et sûr, c'est moi. Le point fixe et sûr, c'est le « je pense ». Pourquoi ? Parce que même quand je doute de toutes les vérités que je peux avoir crues jusqu'à là, même dans le doute de tout, mais il y a au moins quelque chose de sûr, c'est que je doute. Et donc j'existe. Je doute, je pense, j'existe. Et il a enfin son point fixe. Seulement, le problème, c'est que le cogito, le je pense, il est finalement totalement infécond. Parce que, bon, je suis sûr que j'existe, mais je suis toujours pas sûr du tout que ce que y a autour puisse être objet d'un bonheur quelconque, parce que je ne peux pas l'atteindre. Ben, en fait, le cogito recèle des idées innées. Parmi les idées innées, il y a celle de Dieu. Et là, Lévinas l'explique très bien. Il appelle ça le débordement. Dieu, c'est le débordement du cogito. Ça avait été inventé par saint Anselme avant, hein, on ne va pas faire toute l'histoire. L'imparfait, et je suis imparfait, la preuve, c'est que je doute. L'imparfait ne peut pas créer le parfait. Le moi ne peut pas créer le plus. L'idée de perfection ne vient donc pas de moi, puisque je suis imparfait, mais il ne peut venir que de Dieu lui-même, qui est synonyme de perfection. Dieu me garantit du même coup la vérité, parce que s'il me mentait, il ne serait pas Dieu. Il aurait des défauts. S'il est parfait, il ne peut pas me mentir. Donc, finalement, je suis tout seul dans mon cogito à croire à mon point fixe et sûr sans pouvoir croire à quelque chose d'autre, sauf que j'ai Dieu en moi qui me dit « Si tu utilises la voie de la raison et si tu tiens, tu auras la vérité. » Alors l'éthique de Descartes, c'est de s'en tenir à la voie de la raison, c'est ce qu'il appelle la ferme, son expression répétée au moins 50 fois, la ferme et constante résolution de me tenir dans la voie de la raison. Et vous le voyez de nouveau, le même, le point fixe, l'un, la raison. Tout le monde va vers l'un même. Et le bonheur, c'est aussi l'usage de la raison. La raison, c'est la faculté mentale à exiger l'universalité et la nécessité. L'universalité, c'est l'un. Ça veut dire qu'une vérité, elle est vraie à Paris, elle est vraie en Inde, elle est vraie en Afrique, elle est vraie en Australie, elle est vraie partout. Universalité. Et nécessité, la nécessité, une double négation en latin, nakesse, la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce qui ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être autre. Par exemple, quand je dis si A est plus grand que B, si B est plus grand que C, A est plus grand que C, il n'y a aucune démonstration. Hein. Il n'y a aucune démonstration. Je ne démontre rien. Je ne peux pas démontrer. Mais c'est une vérité de la raison. A est plus grand que B. Si B est plus grand que C, alors A est plus grand que C. La raison est donc une faculté à fabriquer, à produire de l'un et du même. Et en morale, qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça donne une autre formulation d'impératif catégorique qui est d'associer la nécessité et l'universalité et qui donne ceci. Agis de telle sorte que le mobile, le principe de ce qui te fait agir, puisse être érigé en loi universelle. Le vol, le mensonge, c'est pas bon. Parce que je ne peux pas ériger en loi universelle le vol et le mensonge. Je vais être moi-même victime. La morale se réfère à l'universalité du repère. Et à la nécessité aussi. La nécessité, ce qui ne peut pas ne pas être, est marquée par l'impératif lui-même, le verbe à l'impératif, agit. Je ressens en moi une pression forte, celle de ma conscience rationnelle, qui est en même temps ma conscience morale, et qui me contraint, qui m'oblige, qui m'invite fortement à agir conformément à l'universalité. Et là, on est en plein bonheur, parce que comme l'avait dit Rousseau, le maître de Kant, comme l'avait déjà dit Rousseau, en obéissant à la raison, j'obéis à moi-même. Je suis la raison. Je suis donc totalement libre. Et attention, c'est très important en politique, très important en culture générale de la civilisation occidentale, parce qu'au moment de Kant, regardez bien les dates, 1724-1804, on est dans la Révolution française et le Premier Empire, enfin, Premier Empire, c'est un peu un an après, je crois. Napoléon est déjà là, quoi. Hein. Et Kant se désespère un peu, parce qu'il est pour la Révolution française. Mais il se dit, comme les Français eux-mêmes d'ailleurs, hein, ça ne peut pas marcher. Quand on coupe la tête au roi, c'est l'anarchie, on s'entretue, c'est la terreur. Il nous faut un chef, Napoléon. Et, conclusion, la liberté individuelle, la démocratie, la Révolution française, c'est zéro. Mais non, il ne veut pas Kant. Il se dit, quelle est donc la solution pour garantir à la fois la liberté individuelle et l'ordre social, le bonheur républicain? Eh bien, la façon de le garantir, c'est de découvrir que chacun d'entre nous, dans sa liberté, parce qu'il est la raison, chacun d'entre nous édicte la même loi universelle qui est la même pour tous. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui la liberté citoyenne. Et il sauve ainsi la culture occidentale créée par Descartes. Et par ailleurs, chez presque tous les grands philosophes, l'amour se réduit à un désir d'unité, rarement au don de soi, voire jamais au don de soi. L'amour est toujours désir d'unité, et rien que ça. Et d'une façon générale, il y a très peu de place à des ouvertures enthousiastes à l'altérité, pratiquement aucune. Je citerai entre autres les chevaliers du Graal. Hein. Eux tendent vers une ouverture à l'altérité, mais est-ce de la philosophie? C'est pas sûr. La dominante de la philosophie du bonheur occidental, c'est finalement une dominante plus grecque que chrétienne. La sagesse est celle de l'homme qui se trouve en se cherchant, de l'homme qui se trouve en se consolidant, en se sauvegardant, le même, l'un. Le désir de la même, c'est le sentiment que je suis déchiré, menacé, altéré, aliéné, c'est le sentiment d'un manque à tout maîtriser. Il me manque à tout maîtriser. Je ne peux pas tout maîtriser. D'un manque à être éternel. L'homme se condamne lui-même à l'angoisse en s'enfermant dans le seul souci de soi. Et l'angoisse de chercher à éviter les échecs, l'angoisse à chercher à éviter les souffrances, la mort, mobilise les techniques, la médecine, la science, la politique. Ça mobilise tout l'Occident. Comment puis-je devenir invulnérable ? Je passe ma vie à ça. Et je passe ma vie donc dans l'angoisse de ce manque. L'homme est constamment dans le souci de son confort, de son avenir, de sa sauvegarde. Chercher à combler des manques n'aboutit pas du tout à les combler. Mais chercher à combler des manques nous installe dans la seule angoisse de ces manques, sans exaltation de vivre. L'Occident fait des progrès, et il y en a fait, pour combler ses manques à être, mais baignant dans l'angoisse persistante de rechercher son invulnérabilité, il n'est jamais heureux. Troisième partie, le petit nombre des philosophies du bonheur, de l'ouverture à l'altérité. Alors il y a quand même quelques-uns qui sont en quête de l'ouverture à l'altérité. Non pas chercher à se consolider, mais s'ouvrir à l'autre, se donner. Alors, c'est ce que Emmanuel Mounier appelle d'une façon forte, la phrase est forte, « Je me trouve en me perdant ». En fait, la citation exacte, c'est « La personne se trouve en se perdant ». Je me trouve en me perdant. Je me trouve non pas en me cherchant dans le repliement sur moi-même l'unité et l'identité, je me trouve dans l'acte même de me donner totalement. Et là, on est effectivement dans un paradoxe fort. Dans ces philosophies, donc de l'ouverture à l'altérité, l'homme se trouve en se perdant, et en premier lieu, il y a là la philosophie issue des évangiles. J'hésite à parler de philosophie chrétienne, parce que le Christ n'est pas un philosophe, j'aurais à le redire. Et ensuite, il y a, en un autre sens, en des sens très différents, il y a le nietzschéisme et peut-être aussi l'existentialisme, mais dans des sens très différents. Alors d'abord, le bonheur chrétien. Certes, l'amour chrétien tend vers l'un même, lui aussi. Attention, c'est compliqué. Parce que l'amour chrétien tend évidemment vers la fraternité, vers la solidarité, vers la paix, vers la communion avec Dieu et avec les hommes. Et attention, cette tension est au cœur même de l'Évangile. C'est pas marginal. Et il y a une quête de l'un et du même dans le christianisme aussi. C'est souvent ce à quoi les chrétiens s'en sont tenus et continuent à s'en tenir. Pourtant, l'originalité de l'amour chrétien réside dans le don de soi jusqu'à en mourir. Le don de soi à l'autre n'est pas simplement un moyen d'aller vers une société plus juste et plus fraternelle. Le don de soi, l'amour, est en soi le bonheur. L'amour, don de soi, est en lui-même le bonheur, au-delà même des finalités, parce que même si j'échoue dans ma tentative d'améliorer la société en me sacrifiant pour une cause, même dans ce cas, le bonheur est dans le geste même de l'amour, dans le geste même du don de soi, que ça réussisse ou pas. Donc, c'est un bonheur très paradoxal, eu égard à tout ce qu'on